au-delà du PEPR ICAR, elle s'inscrit dans un programme plus large de séminaires qui s'appelle les rencontres publiques, dont vous voyez le programme des deux dernières années à l'écran. En fait, l'idée de ce séminaire est née de la place très particulière qu'on occupe avec ma collègue Maëlys Nouvellon. En fait, on est toutes les deux docteurs en muséologie et en sciences de l'information et de la communication, et aujourd'hui, on est chercheuses indépendantes. Et c'est finalement chercheuse indépendante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne travaille pas du côté de l'université, mais plutôt comme prestataire pour les institutions culturelles ou le ministère de la Culture, par exemple. Et c'est cette place finalement assez particulière à l'interface des établissements, du ministère de la Culture et quand même de l'université dans laquelle on intervient et on enseigne régulièrement, qui nous a donné envie de créer ce pont finalement qui allie les questionnements et les pratiques des professionnels de la culture, une diffusion des recherches académiques et institutionnelles et une veille sur les grands enjeux du secteur culturel. Notre axe d'étude, ce sont les publics des patrimoines, qui est une des spécialités que nous avons avec Maëlys Nouvellon. Donc vous voyez notre programme depuis 2 ans sur la diapo. Plusieurs séances ont porté sur les musées, mais nous intégrons d'autres champs patrimoniaux comme les archives ou les bibliothèques, car finalement nous travaillons sur la conception des publics qui sont à l'œuvre dans les institutions culturelles et beaucoup de questionnements sont transversaux à ces différents secteurs patrimoniaux. En fait, à chaque séance, nous souhaitons imbriquer fortement la conception des politiques culturelles en invitant les professionnels du secteur à présenter leur travail et la réception de l'autre côté des publics, entendue de manière très large, c'est-à-dire que ce soit le sens produit par les publics ou la composition sociale des publics qui visitent les établissements culturels et patrimoniaux. Ainsi, la présentation d'études et de recherches sur les publics réalisées par les chercheurs ou les chercheuses, qu'elles soient indépendantes ou universitaires, ou bien même les étudiants, est finalement le fil rouge de nos séances. Depuis 2 ans, le séminaire est intégré au cours du Master Gestion des Arts et de la Culture de Paris 1 Sorbonne. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'étudiants et d'étudiantes aujourd'hui dans la salle et je leur remercie de leur présence. Alors, le format est d'habitude un peu plus léger. Il est en visio et il dure souvent plutôt autour de 2 heures et non pas une journée entière pour que les professionnels puissent facilement l'inclure dans leur agenda. Par contre, aujourd'hui, le thème, le rôle social du musée, nous a semblé suffisamment important pour y consacrer une journée entière dans ce bel amphithéâtre. Cette journée est possible, on l'a vu tout à l'heure, grâce au soutien financier et logistique du PEPR ICAR, mais aussi du Master Gestion des Arts et de la Culture de l'Université Panthéon-Sorbonne, et plus nommément pour leur aide et leur coordination pour l'organisation générale. Je remercie Marco Delomo d'Armé, Anaïs Feilleux, Sol Vexer, Hyacinthe Belliot et Marion Brisa, mais aussi Anaïs Reynaud du Musée des Arts et Métiers, qui est également partenaire de la journée, et Loïs Maréchal du Conservatoire National des Arts et Métiers, qui nous a aidés pour l'utilisation de cet amphithéâtre. Et également, je remercie la société de traiteurs qui a réalisé le merveilleux café d'accueil. Je remercie évidemment également tous les intervenantes et les intervenants qui ont accepté de participer aux réunions préparatoires et aux réflexions de cette journée. Je vais les nommer dans peu de temps. Donc le programme est sous vos yeux. Je vais le présenter en revenant sur l'idée du rôle social du musée pour les étudiantes et étudiants, encore une fois, qui ne sont pas des spécialistes du musée. Donc l'idée était aussi de recadrer un peu la journée. Je signale un petit changement de programme. L'intervention de Maëlys Nouvellon et Pauline Massé est annulée car nous n'avons pas eu le temps de présenter les résultats à nos commanditaires. Mais cette communication devrait être présentée prochainement dans un autre cadre et nous pourrons vous tenir informés si cela vous intéresse. Nous avons donc déplacé la visite de l'exposition Empreinte Carbone, grâce encore une fois à Anaïs, qui a lieu donc au ce moment au Musée des Arts et Métiers. Elle était prévue en fin de journée et nous avons déplacé la visite juste après la présentation d'Anaïs pour allier la tête aux pieds et pouvoir comprendre sur pièce les intentions de l'exposition. Donc nous avons choisi de nous intéresser à plusieurs initiatives qui, si elles ont l'air très distinctes au premier abord, participent, en tout cas moi je le pense, d'un même type d'action qui relèverait donc du rôle social des musées, c'est-à-dire finalement que le musée est un instrument au service de la société. Je vais prendre quelques minutes pour revenir sur le concept, mais avant je voudrais quand même dire un mot sur le contexte. Et vous verrez des résonances avec la présentation de Michel Antoine. Parler et s'interroger sur le rôle social pour le musée et finalement des institutions culturelles en général n'est pas anodin à un moment où les coûts budgétaires de la culture et de l'université sont extrêmement fortes et mettent en péril à la fois l'existence et la diversité d'un secteur riche et extrêmement dynamique, mais également met en péril toute la formation de ces futurs professionnels et l'expertise de ces professionnels qui continuent à se nourrir intellectuellement grâce aux recherches réalisées sur le secteur, comme c'est le cas avec cette journée aujourd'hui. Au-delà de ces coupes budgétaires, les attaques politiques contre l'éducation, la recherche scientifique et les institutions culturelles aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump sont très inquiétantes et ne seront pas sans conséquences là-bas et sans doute ici sur les manières dont on peut enquêter et comprendre le monde qui nous entoure, dont on raconte l'histoire et on en garde la mémoire, sur les manières dont on atteste d'une vérité scientifique, que ce soit avec des instruments de mesure comme on en trouve dans les salles du Musée des Arts et Métiers ou à partir d'archives, de collections muséales qui vont être les témoins matériels, on l'a dit tout à l'heure, d'un événement, d'un lieu ou d'une vie. Ainsi, si la journée s'intéresse à l'extension du rôle social des musées, elle n'en affirme évidemment pas moins leur importance. Cette journée a donc aussi pour enjeu de penser et de construire des alliances interprofessionnelles entre des secteurs proches, indissociables et indispensables pour la société, ceux de la production scientifique, de la conservation, de l'éducation et de la diffusion des connaissances. Revenons à notre histoire, qui, racontée en quelques minutes, devra prendre certaines autoroutes, vous m'en excuserez, pour mieux circuler sur des petites routes dans la suite de la journée. Voilà, au moment de la création révolutionnaire des musées, leur fonction est de former les artistes et les professionnels et de permettre l'édification du peuple à partir d'objets qui sont considérés dorénavant comme du patrimoine commun et non plus de collections royales et princières ou appartenant à l'Église. Et pendant deux siècles, vont se développer des musées qui élargissent thématiquement la notion de patrimoine. Ces musées vont constituer des collections et lancer des recherches sur ces collections, puis les présenter au public à travers des expositions qu'on n'appelait pas encore tout à fait permanentes. Dans les années 60-70, le musée comme institution connaît une crise où son utilité est interrogée. Plusieurs propositions et initiatives se développent alors. Par exemple, les expositions temporaires qui ont pour enjeu de thématiser les collections pour rompre avec le caractère jugé trop figé des collections permanentes, mais également l'apparition de musées que l'on va qualifier de communautaires, c'est-à-dire qu'à la fois il est inscrit dans un territoire et donc s'adresse à une population particulière, mais en plus il y a l'idée que ce qui est présenté dans ces murs doit servir la population locale. À ce titre, une des initiatives précurseuses est l'Anacostia Neighborhood Museum, dirigé par John Kinnard, dont on peut voir plusieurs photographies en haut et à droite sur la diapositive. Ce musée est une antenne du Smithsonian Institute et est installé dans le quartier de Washington, dont il porte le nom, en 1967, dans un ancien cinéma, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu. Ce musée de voisinage, puisque c'est sa traduction en français, est conçu précisément pour répondre aux besoins d'habitantes noires, défavorisées, en termes de connaissances sur eux-mêmes, comme l'exprime la citation sur la diapo. Nous avons besoin et nous voulons des expositions et des activités sur l'histoire des Noirs, puisque nous en connaissons si peu sur le sujet. et sur les préoccupations qui les concernent, par exemple la criminalité et l'incarcération, l'insalubrité des logements avec une exposition très marquante avec l'exposition de rats vivants, ou encore sur l'usage des drogues. Ce musée est également une réponse et une critique du racisme des autres musées. C'est le point 3 des doléances qu'il a sur la présentation que je vous présente à l'écran. Le point numéro 3 des chefs d'accusation énoncés par John Kinnard. Donc, sont-ils incapables, donc les musées, de surmonter non seulement leur ignorance des minorités culturelles, mais leur racisme réel et visible dans ce qu'ils collectionnent, étudient, exposent et dans l'embauche de leur personnel. En France, on va trouver des démarches similaires, que ce soit la mise en place d'expositions sur des sujets locaux, comme l'exprime la citation de Bernard Gilman à propos du musée dauphinois que vous voyez sur la diapo, où le principe est qu'il ne s'agit pas d'un musée d'art et de tradition populaire, mais un lieu où nous essaierons de situer dans leur contexte historique les problèmes actuels de la région. Ou encore l'exemple emblématique du premier écomusée du Creusot en 1974, créé pour permettre aux habitants de se réapproprier un territoire en crise, notamment économique. C'est ce qu'on va appeler la nouvelle muséologie ou l'écomuséologie, portée particulièrement en France par Hugues de Varine, mais également Georges-Henri Rivière, le premier directeur du Musée national des arts et traditions populaires. Vont se multiplier des expériences muséologiques qui vont prendre différents noms, nouvelle muséologie, musée participatif, écomuséologie, muséologie sociale, muséologie critique, muséologie de la rupture, c'est-à-dire finalement des expérimentations qui ont pour but de réinventer l'institution muséale. Cette histoire en France, elle est assez bien documentée et vous pouvez retrouver les grandes étapes de cette histoire sur le site Muséothèque et dans un certain nombre d'ouvrages dont je ne présente que quelques couvertures à l'écran, notamment Vague, une anthologie de la nouvelle muséologie qui regroupe toutes ces réflexions à la fois théoriques et pratiques au tournant des années 70 jusqu'aux années 90 et qui s'appuie aussi sur des conceptions de projets muséologiques développés aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, sur le continent africain et en Europe. On trouve également l'ouvrage « Le musée participatif, l'ambition des écomusées » paru en 2018, et qui est la première synthèse historique et conceptuelle uniquement consacrée à la muséologie participative, avec de nombreuses expériences décrites à la fois théoriques et pratiques. Et enfin, on peut citer par exemple le livre publié plus récemment sous la direction de François Mérès et Fabien Van Gert à propos de Jacques Hénard et ses équipes au musée d'ethnographie qui pratiquaient une muséologie de rupture. Cette attention aux sujets qui nous touchent et se focalise donc depuis plusieurs années sur les crises climatiques et écologiques avec lesquels nous devons vivre et à certains endroits même survivre. Et c'est ce que nous verrons ce matin avec la présentation de la conception de l'exposition « Empreinte carbone » avec Anaïs Renaud et qui la remettra, je pense, dans un ensemble plus vaste d'expositions sur le sujet et d'initiatives dans les pratiques professionnelles elles-mêmes. Par exemple, aujourd'hui la dimension écologique apparaît comme un des critères de notation des marchés publics et c'est comme ça aussi que ce type de sujet s'inscrit dans les pratiques professionnelles. On l'a vu, la critique de la représentation dans les musées, c'est-à-dire finalement qui est représenté et comment, existe dans des textes anciens, comme celui de John Kinnard que je vous ai présenté, mais elle prend une forme plus contemporaine ici en France depuis plusieurs années. Surtout, elle apparaît dans des musées moins habitués à cette réflexivité sur ces méthodes et sur ces sujets, comme c'est le cas dans les musées de Beaux-Arts. Par exemple, dans le catalogue de l'exposition « La Musée », qui est présentée actuellement au musée Sainte-Croix de Poitiers, qui vient à peine d'ouvrir, on trouve cette attention aux œuvres présentées dans les collections en ce qu'elles façonnent les imaginaires. J'ai reporté une grande citation de Camille Belvez et Manon Le Caplin, les deux conservatrices commissaires de l'exposition « La Musée ». Et on voit qu'elle s'interroge sur la manière, en fait, sur les devoirs tacites qui président à l'acquisition des collections de musées. Elle décrivent trois règles tacites à ces acquisitions, que sont la modération, la prudence et la perspicacité, et se demande s'il ne faudrait pas ajouter une quatrième règle ou une quatrième attention, qui serait le rôle social du musée en tant que producteur d'imaginaire et de représentation. Et si l'enjeu de l'exposition est la présence des femmes artistes dans la création artistique, elles affirment également que le musée a un devoir éthique de représentation des catégories de population minorisées et qu'il doit s'interroger sur sa participation séculaire aux injustices en tout genre. Les approches critiques de l'art, comme dans cette exposition, sont soutenues par des travaux d'historiens et d'historiennes féministes de l'art assez anciens, comme ceux de Rosika Parker et Griselda Pollock, qui viennent enfin, en tout cas pour le livre présenté à l'écran, d'être traduits en français, mais dont la date de publication est de 1981, mais également par des travaux de jeunes historiennes de l'art, par exemple l'association FAR, Femmes Artistes en Réseau, Documentation et Archives des Sororités Artistiques en France, et un réseau particulièrement actif sur cette question actuellement. Le programme de cet après-midi s'ancre donc dans des approches réflexives des rapports de pouvoir qui peuvent se jouer dans les musées, avec les présentations de Marine Kissiel sur son exposition sur la masculinisation de la garde-robe qui aura lieu au musée Galliera, de Raphaël Beuris sur la nouvelle exposition semi-permanente au MUCEM et qui propose de s'interroger sur les imaginaires coloniaux de la Méditerranée produits par l'histoire de l'art et l'ethnologie. Et enfin, Hortense Bellotte nous parlera de la création de son spectacle Escape Game au musée d'Orsay, qui propose une lecture queer et féministe de l'art dont j'ai pu étudier la réception et qui sera la dernière partie du programme. Je vous souhaite une bonne journée et je laisse la parole à Annès.
Bonjour à tous. Donc, comme l'a rappelé Noémie, je suis Anaïs Reynaud, je suis chef de projet exposition au Musée des Arts et Métiers et j'ai assuré la coordination de l'exposition actuelle au musée, donc qui se déroule jusqu'au 18 mai prochain, qui a ouvert le 16 octobre. Elle a été prolongée d'une semaine, c'est pas moi qui me trompe, et qui donc parle d'empreinte carbone. Ah oui, je me remets devant. Hop. Donc je vais juste revenir sur un petit peu les raisons qui nous ont poussés à aller vers cette exposition, comment on a pris ce sujet-là qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire au musée, et puis un petit peu comment on a essayé de se questionner puis de répondre en partie aux questions qu'on s'est posées. Donc empreinte carbone aux arts et métiers, c'est un petit peu une image de mon sentiment quand la direction me confie le projet à l'été 2022, parce que pour ceux qui connaissent le musée est, dans son parcours permanent, propose une lecture très classique, on pourrait dire voire un peu datée, de l'histoire des techniques. C'est vraiment une histoire très linéaire, très centrée sur les objets. Le musée a fait l'objet d'une rénovation dans les années 90 et a réouvert en 2000, et au moment de sa réouverture était présenté comme un Louvre des techniques, avec vraiment une muséographie qui mettait les objets techniques en avant et qui les sublimait en quelque sorte, presque comme des œuvres d'art, mais en écartant grandement le contexte, que ce soit le contexte de création, le contexte d'utilisation ou les conséquences sociales, économiques, environnementales de ces innovations. Donc on a aujourd'hui un musée qui est assez nu en termes de discours, et clairement aborder la question écologique à partir de nos collections et dans l'esprit de notre parcours permanent, c'est une proposition, on va dire, de rupture. Pourquoi on a choisi ce sujet-là? La directrice, donc la prédécesseuse de Michel Antoine, avait comme idée que c'était un sujet d'actualité et qu'il était nécessaire d'actualiser le discours sur les collections, ce avec quoi on était tous d'accord. Et la programmation oscillait entre des sujets très historiques et liés aux collections, des grands ensembles, des figures. On avait fait une exposition sur Benjamin Franklin, sur la pédagogie au XVIIIe siècle, sur Volta, etc. Et l'idée était l'idée d'aller un peu plus sur des sujets en prise avec des enjeux contemporains et de voir par quel bout on pouvait questionner et interroger nos collections au prisme de la crise environnementale. Et dans l'autre sens, comment la crise environnementale pouvait être interrogée par un angle technique, d'où le sujet de l'empreinte carbone, donc l'empreinte carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre qui influent sur l'effet de serre et donc renforcent le réchauffement climatique. C'est peut-être parmi les enjeux environnementaux celui qui est le plus lié à la technique, puisque l'augmentation de ces émissions, il est lié au recours massif aux énergies fossiles. Ce recours massif, il a un point de bascule dans l'histoire qui est celui du début de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle et l'apparition, enfin l'utilisation massive du charbon, puis du pétrole et ensuite du gaz pour soutenir cette croissance économique et ce développement industriel qu'on désigne sous le terme de révolution industrielle. Donc c'était l'angle par lequel on pouvait saisir un petit peu cette question, plus que par exemple les questions de biodiversité qui seraient peut-être plus attendues dans un muséum d'histoire naturelle. Et donc c'était de se dire comment on pouvait venir nous aussi apporter notre contribution à l'édifice et faire en sorte que le sujet soit sur la place publique et finalement ait une place la plus large possible dans l'espace public. La grande question était, que veut dire parler de changement climatique dans un musée de technique ? Donc comme je disais, dans un musée qui aujourd'hui n'aborde que très peu les conséquences et le contexte autour des objets. Donc pour nous, ça a tout de suite voulu dire deux choses. Accepter de changer la façon dont on utilise nos collections actuellement pour nourrir ce narratif de l'histoire des techniques, de l'histoire du progrès, des inventions qui se succèdent, des grands, quasiment en fait une histoire bataille, mais pour les techniques, hein, où on a l'invention de la pile, l'invention de la machine à vapeur, l'invention de l'avion, de l'automobile, du métier à tisser, etc., qui sont vraiment des grandes scansions qui s'enchaînent. Et finalement essayer de battre en brèche autour de cette question du progrès. Et donc de l'autre côté, comme je disais, ouvrir le discours aux conséquences sociales, économiques et environnementales des objets présents dans les collections. Donc là, vous avez à l'image un modèle de machine à vapeur, donc qui est l'objet le plus à... Moi, j'ai un problème de droite-gauche, donc ça ne va pas m'aider. Le plus à gauche. Donc vraiment, la machine à vapeur, c'est l'objet concis, c'est le point de départ de la révolution industrielle, c'est la maîtrise énergétique où on va pouvoir concentrer l'énergie et l'utiliser dans un système maîtrisé. Et ensuite, on a un modèle, pour le coup, un modèle pédagogique de moteur à 4 temps, donc qui est vraiment, encore une fois, l'objet un petit peu... au nid aujourd'hui, puisque c'est globalement ce qui équipe les véhicules thermiques aujourd'hui, les voitures qu'on utilise et tout le transport routier qui y est associé. Donc des objets aujourd'hui que nous on utilise dans le parcours comme vraiment des jalons historiques, et que là on est venu interroger sur l'empreinte carbone à l'usage, par exemple pour le moteur ou l'évocation. Donc ces deux objets sont présentés dans l'exposition. La machine à vapeur est là pour présenter finalement la ressource charbon et comment cette ressource s'est imposée et quelles sont les conséquences environnementales de son utilisation. Et de l'autre côté, un dépôt du CNAP dans nos collections qui représente une mine à ciel ouvert, donc cette exploitation gigantesque. Donc là, on est à la frontière franco-belge, mais en fait, c'est un paysage qui date des années 1870, mais qui ressemble tout à fait à ce qu'on trouve encore dans beaucoup de régions du monde où l'industrie minière est importante et qui donne à voir l'aspect très très gigantesque de cette industrie. Donc aujourd'hui, s'il y a 10 ans ou dans un autre contexte, on aurait tendance à utiliser un tableau comme ça pour parler spécifiquement de l'industrie minière et de ce qui se passe en 1870 dans les bassins miniers du nord de la France. Et là, nous, on vient changer ça et on vient plutôt parler de transformation du paysage et d'impact sur les systèmes, sur la biosphère. Pourquoi ce sujet aussi chez nous? Comme le disait notre directrice, L'idée aussi, c'est de s'appuyer sur un patrimoine, sur des objets, et du coup, de finalement d'ancrer et de donner une matérialité à un sujet qui est présent dans la sphère médiatique. On a régulièrement des sujets, des articles, des reportages, etc. Mais finalement, de lui donner une sorte de présence, d'aspect très très concret. Je ne vois pas ce que j'ai écrit là. En montrant des objets dont le lien avec des conséquences environnementales est évident. Donc là, on a une maquette de train ou l'avion qui se trouve dans l'escalier d'honneur du musée. C'est des objets dont il est évident pour les visiteurs qu'ils ont un impact environnemental. Partir aussi des objets pour aborder un sujet, comme je disais, souvent traité à une échelle macro. Donc on va venir prendre des objets du quotidien, et l'approche de l'exposition est beaucoup de partir d'objets et de pratiques du quotidien et de venir tirer les fils, montrer derrière l'infrastructure, montrer ce qu'on ne voit pas, montrer les ramifications en fait derrière l'usage, derrière une ampoule ou derrière un ordinateur, qui est un objet complexe avec différentes filières de fabrication, différentes filières de transport, et qui vont venir se concentrer autour d'un objet. Donc finalement aussi révéler derrière les objets qu'on utilise dans notre quotidien la complexité de leur mise en œuvre et de leur fabrication. Et puis l'idée était aussi de commencer à réfléchir sur des objets qui pouvaient peut-être commencer à dresser une histoire une histoire de la crise écologique, et finalement de prendre des objets comme étant potentiellement des marqueurs d'une histoire longue de la crise écologique, et de dépasser le côté c'est un sujet d'actualité. Certes, c'est un sujet d'actualité, mais en fait, en regardant dans les collections, on peut venir trouver des ramifications et des racines à ce sujet-là, et il est important aussi pour lui donner corps, finalement, de confirmer son histoire, et finalement aussi de lui associer potentiellement un patrimoine avec des nouvelles valeurs, et de transformer un petit peu le discours qu'on a autour des objets pour venir créer des nouveaux corpus d'objets autour de ce nouvel objet d'étude. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a dit c'est super, on est hyper légitime, on va pouvoir en parler, est-ce qu'on peut vraiment faire une exposition sur un sujet où on va demander clairement aux gens de changer leur habitude, de changer leur regard, d'imaginer une nouvelle pratique et un nouveau rapport au monde, sans changer nous-mêmes nos habitudes et notre façon d'envisager l'exposition. Non, évidemment. Et pourquoi non? Ça tient vraiment à ces trois petites choses. La nécessité d'être crédible, se poser entre guillemets en donneur de leçons et faire une exposition en expliquant aux gens qu'ils vont devoir vraiment changer parce que c'est très très important et que sinon on met en péril la vie sur Terre, tout en ayant l'impression de ne pas vraiment avoir grand-chose à faire le sujet, pas vraiment être concerné par le sujet. Pour nous, il y avait une sorte de brèche de crédibilité dans cette posture-là. Pour nous aussi, un besoin de cohérence, c'est-à-dire quand on parle de la façon dont les objets techniques et dont nos pratiques avec ces objets va avoir une empreinte carbone et va avoir du coup un impact écologique, ça inclut ce qu'on va faire nous avec nos propres objets techniques au fil de l'exposition, le fait d'avoir du recours à du numérique, le fait de faire venir des véhicules pour acheminer la scénographie, etc. Donc il y a vraiment pour nous il y avait vraiment ce besoin de cohérence, et puis ça s'est conjugué avec un désir d'évolution professionnelle. Noémie l'a dit, l'exposition et notre exposition et puis le désir d'aborder un sujet à forte valeur environnementale, il n'est pas de nulle part, il n'est aussi d'un contexte où clairement le monde des musées s'empare de la question, et on n'est d'ailleurs pas les premiers à l'avoir fait. On a ouvert à peu près un an, je pense, après l'ouverture d'Urgence climatique, c'est ça, 2023, donc la grande exposition semi-permanente de la Cité des Sciences sur la question. On a ouvert aussi après beaucoup d'initiatives autour de l'éco-conception et des pratiques professionnelles durables des musées. Je pense au Palais des Beaux-Arts de Lille, suite à l'exposition Goya et puis au guide qu'ils ont édité dans une démarche très très réfléchie. La Cité également a fait le sien, et un certain nombre d'initiatives portées par le ministère de la Culture pour accompagner ces nouvelles pratiques. Donc nous, on avait aussi l'envie de se placer dans ce réseau et dans ce, on va dire, tunnel professionnel, et un peu de prendre le train avant qu'il soit trop tard pour aller là-dedans. Tout ça pour dire qu'on s'est vraiment positionné avec une approche plus réflexive que d'habitude. D'habitude, on prend un sujet d'exposition, on a le budget, on a le rétro-planning, on a les divers intervenants, on a les collections, et c'est déjà un casse-tête assez compliqué pour que ça tienne. Mais là, on s'est vraiment dit, est-ce est-ce qu'on fait les choses comme d'habitude ou est-ce qu'on s'interroge sur pourquoi on veut choisir ces collections-là, pourquoi on veut une scénographie de telle façon et qu'est-ce qui va compter le plus dans le projet. Voilà, donc le mot est lâché, l'éco-conception, évidemment ça a été le truc genre il va falloir qu'on fasse de l'éco-conception, on éco-conçoit, ça va être éco-conçu et ça va être super. Donc il y avait comme je disais des guides, notamment celui de la Cité des Sciences et celui du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui sont des guides très très complets mais qui sont aussi des guides très très effrayants puisque en fait ils ont des équipes là-bas qui s'en chargent alors que nous on avait... Ben, pas d'équipe et pas de démarche engagée. On n'a jamais fait notre bilan carbone jusqu'ici, on n'a pas de référent RSE encore aujourd'hui, ni au CNAM, ni au musée. Donc il y avait ce truc de « ouais, ça va être super » et genre « est-ce qu'on peut le faire en étant, entre guillemets, un petit peu à l'arrache ?» ou en, pour le dire plus proprement, de façon empirique, sans forcément penser les choses avant de s'y mettre. Parce qu'évidemment, on s'est dit qu'on allait faire de l'éco-conception quand le sujet était déjà lancé et qu'on était à 2 ans de l'ouverture. Autant dire à un moment où on ne se dit pas « prenons 1 an et demi pour réfléchir à ce que nous sommes avant de nous engager dans quelque chose ». C'était plutôt « lançons le marché, mais réfléchissons à la façon dont on allait le faire, etc. » Donc, éco-conception, oui. Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception ? Je remets une petite chose. L'éco-conception, donc, c'est une pratique qui est normée. Hein. C'est une démarche méthodique qui prend en considération les aspects... Je vais y arriver. Hop là ! Environnementaux du processus de conception et du développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc l'idée, c'est vraiment de penser l'ensemble des conséquences environnementales. Alors nous, on s'est surtout concentré sur l'empreinte carbone parce que c'était quand même le sujet principal, comme à la façon d'un rétroplanning, hein, en prenant le projet par le bout et puis en remontant les fils pour voir à chaque étape ce qui peut être repris, amélioré et optimisé. Clairement pour nous ça voulait dire changer notre pratique, changer notre approche et sur 2 aspects, enfin sur 3 aspects différents, mais on va dire 2 plus leur mise en scène. Donc c'était développer une scénographie à empreinte carbone réduite, construire des outils juridiques et administratifs adéquats. Puisqu'évidemment, comme on n'avait pas de démarche générale engagée, nos outils juridiques étaient, enfin, et sont toujours assez classiques. Et on a questionné notre service des marchés pour savoir si eux souhaitaient également s'engager dans une démarche un peu plus poussée et réfléchir avec nous à des formes nouvelles d'appels d'offres qui soient cohérentes avec ce qu'on souhaitait développer. Donc sur la scénographie, ça voulait dire repenser la grammaire de l'exposition, de quoi on a réellement besoin dans une exposition et de quoi on peut se passer. Potentiellement changer les priorités. Est-ce qu'on a besoin que tout soit absolument nickel ? Est-ce qu'on a besoin que les choses soient en kit ? Est-ce qu'on a besoin que les choses soient spécifiques, singulières ? Ou est-ce qu'on peut être plus générique, plus, moins beau, entre guillemets ? Enfin voilà, sur quels critères on allait rogner, enfin où on pouvait envisager de rogner ? Et quand je disais assumer son rôle de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, donc de MOA, c'était aussi assumer le fait qu'on allait avoir un budget conséquent, une exposition, comme dans beaucoup d'endroits, elles sont à 6 chiffres, donc ça commence à être beaucoup d'argent. Et c'était aussi de se dire, est-ce qu'on peut faire en sorte que cet argent, on le dépense de façon propre et en fait d'avoir la même idée de consommation économique vertueuse que quand on choisit de faire des courses chez un acteur local avec des produits de saison, etc. Et en fait de se dire la même chose. Est-ce qu'on peut choisir finalement, nous, d'encourager, d'inciter des acteurs qui ont eux-mêmes une démarche vertueuse et d'utiliser notre pouvoir économique, ce qu'on se dit rarement parce qu'on est souvent dans la posture de « on n'a pas assez de budget, on ne va pas y arriver, on est vraiment tout petit, etc. » Mais en fait, si, quand vous avez globalement des centaines de milliers d'euros à dépenser, vous avez un poids économique qui est loin d'être insignifiant. Et évidemment, donc mesurer l'empreinte carbone du projet, ça c'était le niveau 1 de « venez, on va faire quelque chose d'intéressant », et de la présenter aux visiteurs, c'est pas seulement pour se dire « nous, on a fait quelque chose d'intéressant », mais pour essayer aussi de se placer dans une démarche de transparence et se lier aussi aux visiteurs. En proposant de présenter notre empreinte, on leur propose finalement on ouvre le flanc, on se on se pose là comme un objet qu'ils peuvent regarder, étudier et juger et dire si en fait cette réduction elle est suffisante, intéressante ou pas. En tout cas, on se met à niveau, on se place pas, enfin déjà on se montre, on n'est pas invisible, on n'est pas la main invisible de la culture qui donne juste des projets culturels que les gens viennent visiter. On est là, on est présent, on explique ce qu'on fait et du coup les visiteurs peuvent nous questionner, nous interroger et nous critiquer, et ça on trouvait ça essentiel. En fait, je vais peut-être accélérer, je suis extrêmement bavarde et j'ai pas énormément rédigé. Donc, en plus, là, c'est très technique, mais sur le marché de Seno, c'était vraiment le point crucial, le moment où il fallait qu'on fasse les choses le plus proprement possible pour se donner la possibilité de choisir et de faire un choix qui soit différent et qui soit plus engagé que d'habitude. Donc, l'idée, c'était d'inclure le plus possible d'éléments ayant trait à l'éco-conception au fil du cahier des charges. Donc, vraiment, à chaque fois qu'il y avait écrit, la mission sera de, hop, il y avait éco-conception dans la phrase qui suivait. Donc, dans le préambule de la section décrivant les missions, c'était précisé. Et puis, dans la description des missions de la maîtrise d'œuvre, je redéplace, pardon. Oui, je vais le mettre à droite à gauche, les gens, comme ça. Donc, d'optimisation de l'empreinte carbone, dès l'esquisse, un processus continu, évalué par la maîtrise d'ouvrage à chaque phase de rendu, documenté, avec des données qui concerne l'ensemble de la conception de l'exposition et pas seulement la phase de travaux. C'est consubstantiel du sujet et on attendait que les candidats aient une maîtrise ou nous présentent un groupement qui nous garantisse une maîtrise technique et conceptuelle sur cette mission-là. Donc on a fait ça comme ça et on a boosté un petit peu les critères d'évaluation. Donc on a la chance d'avoir un service des marchés qui n'est pas trop demandant sur le poids du prix dans l'évaluation générale, puisque vous voyez que maintenant le prix n'est plus qu'à 30% dans les critères d'évaluation. La qualité du projet pour 50% et l'engagement développement durable qui jusqu'ici était à 10% a été poussé à 20%. Donc ça c'est cool parce que pour le coup ça commence vraiment à donner un point important. À 10% on est là genre oui ça compte bien sûr, voilà. À 20% on a vraiment pu différencier, et en l'occurrence sur les 4 finalistes du concours, on a aussi vraiment choisi en fonction de la démarche environnementale et de du sérieux de la méthode et de la méthodologie de calcul de l'empreinte carbone qui nous avait été présentée. Je crois que je vais, mais je peux le réduire. Voilà. Idem, en fait, donc on a sélectionné un candidat, c'est la Fabrique Créative, je n'ai pas de secret, en plus leur nom est sur l'ours de l'exposition, qui était accompagné par une agence dédiée au calcul de l'empreinte carbone. Donc dès le début, ils nous ont proposé, je vous en dis pas trop, mais en gros, c'est un échafaudage, notre exposition. Donc c'est un échafaudage événementiel qui a été habillé, paré avec du craft, des panneaux de bois, etc. Mais c'est une scénographie qui est assez brute. Encore une fois, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'était un système qui nous permettait finalement, quand je disais de revenir à la grammaire de l'exposition, finalement de montrer presque le squelette de ce qui est une scénographie et de comment elle tient, et de montrer qu'on avait mis presque que l'essentiel pour faire cette scénographie. C'est un échafaudage qui est déjà utilisé, donc qui n'a pas été fabriqué pour l'exposition et qui l'été prochain sera probablement une scène de festival en plein air. Donc c'est un objet de location qui passe temporairement par le musée, et puis on a vraiment travaillé, comme vous le verrez, à avoir une scénographie un peu modulable qui correspondait bien à ce qu'on voulait sur le projet. Cet effort de conception et d'optimisation et d'attention portée à l'empreinte carbone du projet, elle s'est évidemment prolongée sur la phase de travaux. Donc on a d'abord une phase de conception, puis une phase de travaux avec l'imprimeur, l'agenceur qui va réaliser les mobiliers, etc. Où on a, encore une fois, essayé de booster. Alors là, c'est allé jusqu'à 15%, c'était un petit peu moins haut, mais on a différencié entre les lots avec le plus faible impact, l'échafaudage, l'éclairage, les multimédias et les manips, où eux sont restés à 10%, et pour l'agencement, donc c'est vraiment le mobilier, préparer les panneaux, fournir les vitrines, etc. Donc c'est là où il y a le plus de matières premières, donc le plus d'émissions qui ont lieu. Et idem pour les impressions, parce qu'encore une fois, c'est là où il y a le plus de matières premières. Et globalement, c'est toujours la phase de fabrication et de fourniture de matières premières qui coûte le plus par exemple que le courant nécessaire à maintenir un vidéoprojecteur allumé pendant les 7 mois d'exploitation de l'exposition. Et il se trouve que nous, on a un parc informatique et que pour les multimédias, l'ensemble des multimédias de l'exposition tourne sur notre matériel. Il n'y a eu aucun achat, aucune location particulière pour l'exposition. Donc on a vraiment différencié en fonction de ce qu'on avait identifié comme zone d'émission. Et puis surtout, on a pu faire appel à un acteur de l'économie circulaire, et ça, c'était une première pour nous aussi. Donc on a travaillé un petit peu avec nos services des marchés pour savoir comment on allait tourner ça. On n'obligeait pas les candidats à être une ressourcerie pour pouvoir postuler, mais on avait précisé dans le cahier des charges que l'agenceur pouvait s'associer à une ressourcerie ou être capable d'avoir de nous prouver qu'il avait une démarche ou une méthodologie proche d'une ressourcerie. Donc ce qui était intéressant, c'était que finalement, l'acteur de l'économie circulaire, qui est pour les marchés publics toujours un petit peu derrière, c'est pas facile, c'est des associations, c'est un tissu économique différent, ils sont pas en capacité de répondre à des appels d'offres complexes, etc. Mais en fait, nous, on est allé chercher plutôt du côté de leur pratique, et c'était aux acteurs traditionnels de venir se mettre dedans. On a eu des réponses très diverses, et on a eu vraiment les deux cas de figure. Un acteur classique qui a dit « nous, on le fait, on a les certifications, les normes, etc. et on fait du réemploi, on est capable de le faire ». Et on a eu le cas de figure, c'est plutôt vers ça, enfin, c'est complètement vers ça qu'on est allé, puisque c'est eux qu'on a sélectionné, d'un agenceur qui s'est associé à une ressourcerie, en l'occurrence la Réserve des Arts. Donc on a eu ce groupement avec un acteur de l'économie circulaire qui est d'habitude plutôt en aval. Donc la Réserve des Arts est souvent sollicitée par les musées ou les institutions culturelles pour aller récupérer des éléments neufs après leur utilisation et eux en faire la valorisation dans un second temps. Et en fait, là, nous, on est allé les chercher en amont. On a plus ou moins vidé leur stock, en tout cas de contreplaqué, et une bonne partie de leur médium. Donc on est vraiment allé puiser dans ce stock de seconde main et ils viendront chercher ce qu'on n'utilise pas à la fin de l'exposition. Donc là, pour le coup, c'est circulaire au possible avec le même acteur en début et en fin de chaîne. Ça nous a posé des grosses questions, ce réemploi, et en termes de pratique, on va avoir aussi des retours à faire, notamment dans les groupes de travail à l'échelle du ministère qui travaillent sur une modification de la réglementation, notamment des réglementations ERP et permis feu. Parce que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir des matériaux qui sont garantis et qui arrivent avec leur permis, disant qu'ils sont avec un niveau de résistance M0, M1, M2, M3, etc. Et en fait, cette garantie-là, ce permis feu qui accompagne... ce certificat en fait, qui accompagne l'objet, il est perdu après la première utilisation. Même si vous garantissez que vous n'avez fait aucun traitement sur votre panneau, qu'il est tel quel et tel que vous l'avez reçu, donc toujours aussi résistant au feu. Et ça, c'est une réglementation qui est en train un petit peu de s'assouplir, et qui est en train notamment de s'assouplir dans le sens de, si l'objet continue à voyager avec son certificat initial, il est considéré comme étant à nouveau... il continue d'être considéré inifugé au niveau M1, M0, M2, M3, etc. Et ça, donc, on a travaillé avec notre service pour le coup de la prévention et de la sécurité, qui, niveau réglementaire, a vraiment fait les recherches à chaque fois sur qu'est-ce qui était M1, qu'est-ce qui était M3. C'est tout bête, mais en fait, entre un panneau, s'il est structurel ou s'il est de décor, il va pas avoir la même classification. On va demander à un panneau structurant qui vraiment tient votre cloison, lui, il va devoir avoir une plus grande résistance. Si c'est du décor, il va pouvoir être moins protégé, moins inifugé, et donc en jouant sur vraiment une exploration fine des articles du code des ERP, on a pu comme ça faire venir beaucoup plus de matériaux de réemploi que prévu dans l'exposition, et ça a été vraiment un gros travail. Et la ressourcerie nous a vraiment aidé là-dessus, puisque la Réserve des Arts, ils ont cette pratique-là, ils savent tracer, ils savent garantir l'origine et les traitements qu'il y a eu sur le matériel, et donc ça a été ultra précieux. L'éco-conception, c'est très bien, et évidemment, pour ce qui est de la scénographie, ça a permis d'avoir une réduction significative de l'empreinte carbone du projet en général, mais la durabilité et l'aspect responsable du projet, ça passait aussi par autre chose, et la place des collections en faisait partie. pour ce projet-là, comme on était sur une exposition entre guillemets de discours, c'est-à-dire les visiteurs n'attendent pas des pièces en particulier, mais d'avancer dans dans une thématisation des collections, comme disait Noémie, autour de cette question de l'empreinte carbone, on avait la liberté de venir piocher dans les collections finalement un peu au gré de ce qu'il y avait, et on a vraiment choisi de penser les collections comme une ressource finie, globalement, de faire avec ce qu'on a. Ce qui explique, par exemple, dans la partie où on parle de l'utilisation, on voulait évoquer l'électroménager, et il se trouve que nous, on n'a pas particulièrement d'électroménager très très contemporain dans les collections, mais on a des objets incroyables comme ce réfrigérateur des années 30, et on a réfléchi à ce que l'important c'était de montrer le réfrigérateur que les gens connaissent, ou un réfrigérateur, pour parler de ce qu'est l'électroménager, du taux de remplacement, du taux d'équipement des ménages aujourd'hui. Et on s'est dit que celui-ci, bon, déjà, il a quand même un super look. Et en plus, il fonctionnait, enfin voilà, il faisait office de signe réfrigérateur assez clairement. Et donc, on a un petit peu rogné comme ça sur, on parle de l'électroménager, on va regarder ce qu'on a dans les collections, et puis finalement, on va repartir de ce qu'on a dans les collections pour avancer. Et c'est pas grave si c'est pas exactement ça, si c'est pas le plus bel objet. Là, par exemple, la lampe à pétrole que vous avez là, c'est la première, mais je crois que c'est pas celle qu'il y a dans l'exposition, parce que celle-ci, en fait, il y avait de l'amiante à un moment, et donc en fait, c'était celle-ci, c'était la plus belle, etc. Bon, tant pis, on va en prendre une autre, et d'avoir ce côté un peu détendu par rapport à l'objet totem qu'on voudrait, celui qui dit absolument 100 000% de ce qu'on veut signifier, et plutôt finalement d'accepter le niveau de nos collections sur certaines thématiques, et puis que les objets sont ce qu'ils sont et qu'on va partir de là. Ce qui fait qu'on n'est pas allé demander un réfrigérateur contemporain en prêt pour l'exposition, et qu'on s'est contenté de ce qu'il y avait dans nos collections. On a quand même demandé des prêts, notamment pour la partie sur les solutions, puisque le côté assez prospectif, pour le coup, existe assez peu dans nos collections, encore moins sur une thématique environnementale comme la réduction des émissions. Mais là aussi, on a essayé de travailler de façon raisonnée. On l'a fait de deux façons. Il n'y a quasiment que des prêts français. Le seul prêt étranger, c'est un prêt islandais, parce qu'il se trouve que c'est une entreprise qui est en Islande, mais l'objet est arrivé dans une enveloppe Kraft, donc avec finalement une empreinte carbone assez réduite en termes de transport, pas de convoyeur, pas de caisse particulière faite pour l'occasion, c'est du charbon, enfin c'est une carotte de carbone, donc c'est vraiment un saucisson de charbon qui est arrivé dans son bulle Kraft. Et après, une politique de prêt un peu opportuniste aussi, la maquette de bateau que vous voyez là, elle vient d'une entreprise qui est basée en Bretagne, entre Morlaix et Saint-Malo, et il se trouve qu'on faisait une opération à Saint-Malo dans le cadre de l'exposition précédente, et on a vraiment profité de l'occasion pour dire, excusez-moi, mais vous nous aviez pas dit que c'était à Saint-Malo votre objet. Oui, c'est à Saint-Malo, écoutez, on a le camion qui est là, si c'est ok pour vous, on le récupère en même temps. Et résultat, on a fait un transport, on a évité un transport à vide, et on a récupéré l'objet finalement dans le cadre d'une autre opération. Donc on a été aussi un petit peu radin et opportuniste et efficace, bien sûr, dans une utilisation raisonnée des deniers publics. Mais voilà, l'idée aussi, c'était de penser vraiment les prêts et la logistique de façon la plus facile possible et la plus efficace. Également sur en quoi cette exposition, on s'est un petit peu questionné ce que ça voulait dire de s'attaquer à ce sujet d'actualité et d'essayer, quelle posture ça nous donnait. On avait vraiment l'envie de partager le discours de façon un peu plus marquée que d'habitude. Dans nos expositions, il y a beaucoup de médiation, parce qu'on aime beaucoup faire des dispositifs de médiation. Et pour cette exposition-là, on a vraiment réfléchi à avoir des dispositifs qui soient plus ouverts et plus partagés, entre guillemets, que la médiation qu'on a habituellement. Habituellement, la médiation, c'est une médiation très guidée. Vous arrivez devant le dispositif, on vous donne l'objectif et vous devez, entre guillemets, performer pour répondre aux questions, avoir le meilleur score, etc. Enfin, c'est souvent tourné sur un chemin unique d'utilisation. Et là, on a beaucoup plus de dispositifs qui sont des dispositifs moi que je qualifie du coup d'ouvert, mais qui sont des dispositifs en fait d'expression qui sont faits pour que les visiteurs expriment leurs pratiques sans forcément avoir pour objectif d'être le plus vite, le plus ceci. Par exemple, le dispositif en rouge qui s'appelle le poids de nos choix, vous composez votre menu à l'aide de blocs de valchromate de différentes couleurs, et donc chaque pièce correspond à un aliment, et l'épaisseur de l'aliment dépend de l'empreinte carbone de l'aliment. Donc plus vous avez un gros aliment, enfin un aliment avec une grosse empreinte carbone, plus la pièce est épaisse. On aurait pu tourner, et ça avait été imaginé dès le début, qu'on demandait aux visiteurs de créer le menu le plus bas. Très franchement, quand vous avez une pièce qui est épaisse comme ça et une pièce qui est épaisse comme ça, enfin, c'est quand même prendre les visiteurs un peu pour des bêtes, de leur demander de faire le menu le plus bas carbone. Enfin voilà, ça nous semblait un peu limité. Donc c'est vraiment un dispositif déclaratif où les visiteurs sont positionnés devant. Il y a plein de pièces, ils les regardent, ils les échangent, ils les sous-pèsent, ils les positionnent, ils voient ce que ça fait quand on substitue le bœuf par des lentilles, si on prend un gâteau au chocolat par rapport à un yaourt, etc. Et il y a plusieurs sections, enfin vous êtes là, il y a 4 zones de jeu, le dispositif est assez large, donc vous pouvez voir ce que les visiteurs précédents ont laissé, et évidemment si vous êtes à plusieurs, ben, vous allez faire vos menus ensemble, et puis vous allez regarder ce que la personne fait à côté, en discuter, etc. Donc on propose pas aux visiteurs, enfin, il y a des informations dessus, hein, l'empreinte carbone de chaque aliment est précisée sur les pièces, donc vous apprenez quelque chose en potentiellement en manipulant, mais par contre le dispositif est assez libre et vous pouvez choisir, comme le monsieur ou la personne qui a mis le gros steak sur la deuxième zone de jeu, vous pouvez choisir de faire un menu avec une grosse empreinte carbone, donc manifestement quelque chose qui est en contradiction avec le reste du discours autour. Il n'y a rien qui vous dira que c'est une mauvaise chose, par contre vous verrez quand même que bah, il se passe quelque chose. Et là, beaucoup de c'est pareil pour la caisse carbone, qui est cet autre dispositif où on va scanner et en fait avoir une sorte de bilan carbone, mais de façon un peu plus ludique que nos gestes climat, qui est pourtant déjà assez ludique. Mais pareil, ça ne vous dit pas vous faites le bon choix, vous faites le mauvais choix, mais simplement, voilà ce que vos choix donnent comme niveau d'émission. Est-ce que vous voulez changer ça ou laisser tel quel ? Et puis, on laisse les visiteurs apprécier ce que ça fait. Et également, dans le côté un peu voilà, partagé, on a choisi d'avoir des dispositifs avec des positions de rejet ou de refus, de la même façon que, voilà, on propose le steak en disant... Ben voilà, le steak, il a une grosse empreinte. À la fin de l'exposition, vous pouvez choisir les types de solutions qui vous enjaillent. Et vous pouvez choisir de les adopter, de juger qu'elles sont compliquées, voire même de dire qu'on n'en veut pas. Et on trouvait ça intéressant, encore une fois, d'ouvrir un petit peu à pas juste « venez, c'est génial, si vous avez compris et si vous adhérez à ce qu'on est en train de vous proposer, ça marche ». Et par contre, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune option disponible si jamais vous n'êtes pas d'accord. Et c'est pas la première fois qu'on se questionne là-dessus, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on l'a matérialisé à ce point-là et de proposer aux gens de refuser d'agir ou d'agir dans une direction qui est, enfin, entre guillemets, en opposition avec le reste des informations scientifiques et objectives qui sont proposées dans le discours. Où est-ce que j'en suis ? Je suis hyper quand on en a discuté avec Noémie de ce qu'on pouvait dire à cette journée-là, j'avais posé la question de savoir si comment un sujet d'actualité, un enjeu avec des enjeux sociaux, économiques, environnementaux pouvait nous questionner. Donc ben voilà, on questionne évidemment la pratique et comment ça se traduit dans l'exposition. Évidemment, ça a des impacts aussi sur ceux qui les font, ces expositions. C'est une exposition. Nous, en interne, on a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas très à l'aise avec, qui font de l'éco-anxiété, et c'était compliqué d'avancer professionnellement avec les équipes, avec certains collègues, parce que ça, il y avait beaucoup de... Enfin, c'était un sujet qui était assez lourd, et moi, clairement, c'est une exposition qui m'a fait changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est mon empreinte carbone en 2023, et ça, c'est mon empreinte carbone hier. C'est ultra actuel. Je pense que ça dit beaucoup de choses. Moi, c'est une exposition où j'ai eu beaucoup de mal à acheter des vêtements, en fait, par exemple, entre 2022 et 2024. J'ai pas acheté beaucoup de vêtements, et c'est pas une mauvaise chose. J'ai aussi beaucoup changé mon régime alimentaire. On nous a demandé, dans le cadre du calcul de l'empreinte carbone, ce qu'on mangeait le midi et comment on venait sur notre lieu de travail. Donc on a demandé ça à l'ensemble des équipes qui étaient parties prenantes du projet, avec un ratio en fonction du nombre de jours qui était positionné sur le projet. Donc ma collègue à la régie des collections son empreinte carbone à elle complètement moins que la mienne, quasiment intégralement. Enfin, mais j'ai vraiment été à 100% sur ce projet-là. Donc ça nous a vraiment fait je suis pas la seule à avoir beaucoup changé, aussi parce qu'il y a un gros mouvement de fond et que c'est des questions qui travaillent énormément l'ensemble de la société et beaucoup de collègues. Je veux dire, tous n'ont pas changé parce qu'on faisait l'exposition, mais clairement, moi, de lire des choses sur la façon dont les chaussures étaient faites sur le nombre de kilomètres qu'un smartphone parcourt avant d'arriver dans un magasin. Enfin, c'est vraiment des choses qui c'était difficile en fait de continuer à prendre ces informations et de faire « Ah, génial, 11 000 kilomètres !» et après de faire comme si c'était une information dénuée de conséquences dans ma propre vie. Et voilà, moi j'aurais aimé qu'on pousse plus loin ce curseur-là et j'avais proposé qu'on fasse une campagne en interne avec nos gestes climat qui est quand même vraiment un outil ultra puissant et on peut faire des campagne institutionnelle où on invite l'ensemble des collaborateurs à faire leur bilan et puis après ensuite de voir, pas de façon individuelle, mais de voir où ils se situent par rapport au reste des collègues et quels gestes ils peuvent mettre en place. On l'a pas fait parce que la vie est compliquée et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, mais j'aurais aimé qu'on pousse un petit peu ce curseur-là. On a fait une présentation avec des ingénieurs d'un cabinet de conseil qui nous ont aussi un petit peu sensibilisés à certaines questions, mais on n'a pas forcément poussé plus loin que ça. Donc je ne peux parler que de mon expérience, mais en l'occurrence, choisir de traiter d'un sujet comme celui-ci au musée m'a changé, m'a modifié également. Et tout ça pour dire que ça m'a aussi questionnée sur l'éco-conception. Je suis ravie d'avoir mis le doigt dedans. Je suis ravie d'avoir aussi expérimenté concrètement ce que ça voulait dire le réemploi, tout plein de questions très concrètes que je voyais d'autres musées mettre en œuvre. Et je suis là genre, oh, ça a l'air génial, moi aussi je pourrais le faire. Mais clairement, je trouve que c'est vraiment une seule brique et c'est celle sur laquelle on a tendance dans les musées et par rapport aux expositions en particulier à s'arrêter parce que c'est la plus visible et c'est la plus tangible dans la pratique. Mais l'éco-conception, c'est vraiment un outil pour rendre le musée durable. Et en fait, il n'y a pas besoin de se creuser beaucoup la tête pour en chercher d'autres, puisque les Nations Unies en ont produit toute une série qui s'appelle les ODD, les Objectifs du Développement Durable ou les Objectifs pour le Millénaire. Et dedans, le musée peut trouver sa place à plein d'endroits. Là, j'ai mis celles qui me semblaient les plus évidentes sur l'éducation, sur les communautés durables, sur la consommation et la production responsable, évidemment sur les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique et sur le fait d'avoir des institutions efficaces. Et je pense que c'est autant de relais sur lesquels il faut aussi avancer après, au-delà, à côté. Je ne sais pas comment chaque institution a envie d'articuler ça. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de ne pas rester juste sur du contreplaqué réemployé, ce qui est déjà vraiment une très bonne chose. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et pour ce qui est du musée, pour moi, j'étais vraiment restée sur ça. Et dans l'exposition, voilà, de l'incitation, beaucoup de dispositifs de médiation, beaucoup d'envie de faire, de passer par la pratique, horizontalité, comme je disais, de partager le discours au maximum et essayer d'être dans une démarche où on est ensemble en train de trouver du sens à ce qu'on fait, pas simplement d'avoir un discours descendant et de la transparence dans nos actions et dans la façon dont on les fait. C'est un petit peu mon espoir pour les institutions muséales et la mienne en particulier. Je vous remercie. J'ai été ultra plus bavarde, du coup, je ne sais pas comment tu veux faire.
On va aller voir l'exposition.
Ok, on va aller voir l'exposition.